Végisible.
Végisible.
C'est parti. Elle est autrice, elle est québécoise et son nouveau livre « École pour filles » vient de sortir. Bonjour Ariane Lessard.
Bonjour.
L'histoire, nous sommes plongés une année, quatre saisons, dans un pensionnat pour jeunes filles au milieu d'une forêt. On n'en dira pas plus. C'est un roman choral, fabriqué par des voix intérieures autour de l'adolescence, de cette transformation du corps, de l'apparition de sentiments forts, violents, brutaux. Ariane Lessard, comment naît un livre ?
Comment naît un livre ? Je pense d'un besoin de catharsis autour de sujets qui nous obsèdent. Et ben, ça se fait assez facilement. Je dirais que je me mets à noircir les pages, comme en transe.
Ah oui ?
Et à un moment donné, je retourne là-dedans. Et j'essaie de faire du sens de ce qui est sorti.
Et ce livre, cette histoire, elle est venue comment?
Elle est venue... je pense que l'univers de ça, c'est arrivé parce que petite, j'habitais sur le bord d'un monastère de sœurs cloîtrées à Lévis. Et j'avais donc hâte de pouvoir voir ce qui se passait derrière ces murs-là. J'avais l'impression, chaque fois que je marchais pour aller à l'école, on passait devant ces murs-là. Mm-hmm. On ne voyait jamais ce qui se passait à l'intérieur. Puis je me disais juste, mais qu'est-ce qui se passe avec ces femmes? Et à un moment donné, mon père réussit à nous faire entrer là. Déjà, les sœurs n'étaient plus là, elles D'accord. étaient parties. Et on était allé visiter le lieu, on était les premiers, les Lévisiens, les Lévisiennes, à entrer dans le monastère. Puis je me rappelle qu'il nous avait dit que les sœurs, elles étaient enterrées à même le sol, le jardin, en fait. Mm-hmm. Et j'étais comme, oh wow, il y a des filles, tu sais, qui sont dans la terre ici, puis juste à aider. On descendait dans la cave, il y avait ces murs-là qui étaient froids, c'est vraiment la même atmosphère là, qui colle. Puis j'aime, moi, entrer dans les lieux, sentir qu'est-ce qu'il pourrait y avoir eu comme histoire avant, qu'est-ce qui hante ces murs-là. Fait que déjà, j'étais assez conquise par l'endroit. Je dirais que le lieu est assez inspiré que ça, de ça. Ouais. Mais il y avait aussi cette volonté-là de présenter l'adolescence d'une façon dont je ne l'avais pas vraiment lu avant. Tu sais, des personnages, justement, qui se considèrent pour la majorité, je pense, comme des femmes. Aller voir qu'est-ce qui se passe dans leur tête à ces personnes-là. Puis montrer, justement, le fait que, oui, il n'existe pas que des petites filles sages et gentilles, mais aussi autre chose.
Mis à part les adolescentes et les encadrantes, justement, il y a deux personnages forts essentiels, on vient d'en parler. Le pensionnat et la nature, comme un double enfermement, à mes yeux. Je voudrais parler un peu du style utilisé dans ce livre. Chaque chapitre, c'est la voix intérieure d'une pensionnaire. Pardon. C'est comme un journal intime. Pourquoi avoir choisi cette forme ?
Moi, déjà, j'écris souvent de manière chorale. Parce que j'aime qu'il y ait une pluralité de points de vue. Je me sens souvent mal à l'aise d'avoir un seul avis sur un sujet. Puis j'aime revenir sur les événements, justement, à travers les psychés de plusieurs personnages différents. J'avais déjà fait ça une première fois dans un premier roman, qui était mixte, où il y avait aussi des personnages masculins. Et cette fois-là, je me suis dit, j'ai vraiment envie d'aller voir ce qui se passe dans la tête déjà d'adolescente, mais seulement d'adolescente, donc de personnes qui se considèrent femmes, ou pas. Je pense que ça me permettait déjà d'approfondir plusieurs sujets, tu sais, par rapport à des trucs qui pourraient avoir été tabous pour des jeunes filles. Mm-hmm. Et là, le fait d'aller dans l'intimité de leur voix faisait qu'elles pouvaient parler de n'importe quoi. Tu sais. Justement, déjà, on me dit que le livre, souvent, est très violent. Puis quand je le relis, moi, j'ai pas l'impression que ça allait tant que ça. Mais en fait, c'est parce que ce sont des choses qu'elles se disent à elles-mêmes. Mm. Tu sais, moi, ça m'est arrivé de, je sais pas, penser à la mort. Ça m'est arrivé de penser à « Ah, pourquoi je suis dans un corps de femme? Pourquoi? » Tu sais, des trucs qu'on se dit soi-même à soi-même, ben là, c'est d'avoir la possibilité d'accéder à ça, de rendre ça peut-être plus universel, justement, à percer le secret, tu sais. Fait que le journal intime, pour moi, c'était vraiment la chose. Puis je me disais, est-ce que c'est vraiment du journal ou est-ce que c'est pas des pensées,
t'sais? Oui, c'est ça, ouais.
Il y en a une des personnages qui écrit, Ariandre. Ouais. Les autres, on ne sait pas trop si elles sont vraiment là, est-ce que ce sont des personnages ou est-ce que ce sont vraiment des pensionnaires comme elles qui ont des psychés et auxquels on peut accéder aussi.
Oui, ces personnages n'ont quasiment pas de ponctuation dans leur récit. C'est assez bluffant, je trouve. Et pour revenir, tu parlais de violence. Moi, je trouve ça plus brutal, mais comme ce sont des pensées, on peut tout se permettre, non?
Exactement. un décloisonnement de toutes les pensées. Je pense qu'il y avait vraiment ce plaisir-là là-dedans. Puis, ben, oui, déjà aussi de faire parler des voix jeunes, comme ça, qui sont... Je pense que souvent, on prend peut-être les adolescentes ou les enfants pour des personnes qui n'ont pas de point de vue ou qui n'ont pas le droit à la parole, qui n'ont parfois même pas de droit. T'sais, on s'entend là-dessus que juste au niveau du droit, un enfant souvent n'en a pas eu, autant que les femmes n'en ont pas eu. Ben, à un moment donné, non, tout le monde a des pensées, puis tout le monde peut avoir justement des pensées brutales. Puis je pense que c'est ce qui m'intéressait là, dans cette recherche-là.
Et vous, toi-même, tu écrivais tes journaux intimes plus petites?
Oui.
C'est vrai? De quel âge?
Depuis très longtemps, j'en ai vraiment gardé beaucoup. Je dirais que le premier date première de ma première année. J'ai ça, je me rappelle, j'ai retrouvé une page d'ailleurs où c'est écrit « Je ne veux pas que ma mère voie ce que j'écris ». Et puis, je les ai relus pendant la pandémie, tu sais, parce que j'avais le temps, puis j'étais à la maison, puis je me disais « Ah, il doit avoir quelque chose à aller chercher là ». Et finalement, c'est ça. Parfois, c'est de la surprise, parfois, c'est de la honte. Là, tu sais, « Ah, mon Dieu, tu sais, je pensais comme ça, c'est gênant ». Ou parfois, ouais, c'est comme des trucs que je pouvais dire sur mes sœurs, sur mes amis, sur la famille en général. Je veux dire, c'était secret. Et c'est ce qui permettait justement la possibilité d'aller explorer, je pense, des sujets desquels j'aurais jamais osé parler. Mais là, de le faire à travers l'écriture permettait cette liberté-là des sujets, ouais. Et peut-être même cette brutalité, ouais.
Et ce livre a été écrit pendant la pandémie ou avant ou...
Juste un peu avant. Ouais. Mais c'est drôle parce que la pandémie, je crois que pour moi, ça n'a jamais tapé de la même façon que pour les autres parce qu'étant déjà à la maison pour écrire, j'étais déjà toute seule dans les pensées, tu sais. Fait que, ouais.
Parce qu'il y a quand même cette impression de double enfermement parce qu'il y a ce personnage du pensionnat, je trouve, qui est assez austère, enfin, qui semble austère, enfin, dans mon imagination, en tout cas, austère et tout, et entouré de cette forêt. Et du coup, on est enfermé entre, finalement, deux espaces. On n'a pas beaucoup d'échappatoires. Et je me suis posé cette question, justement, sur le Covid. Moi, ça m'a rappelé vraiment ces confinements.
Le premier jet d'écriture s'est passé avant. Et pendant la réécriture, là, on est tombé, justement, en enfermement total à Montréal pendant certains moments. Je pense un peu moins que vous, en France, qui pouviez même plus quitter l'appartement pendant un certain temps. Ouais,
j'ai plus trop envie de m'en rappeler, mais ouais, c'était un peu ça. Ouais.
C'était un peu moins intense que ça, mais tu sais, il y avait ce sentiment-là qui revenait. Puis justement, je me suis rendu compte qu'il y avait des personnages qui parlaient de cet enfermement-là. Et ça m'a permis, après coup, de retourner encore plus pousser la question de cet isolement-là à cause de la pandémie. Ouais.
Donc c'était quand même générateur, malgré tout, c'est générateur de création.
Ouais, vraiment.
Tant mieux. vous abordez beaucoup de thèmes de l'adolescence, le sentiment amoureux, qu'il soit vers un garçon ou vers une fille, la maturité qui émerge, celle qui fait s'éloigner des amis. Vous parlez des règles aussi, d'une façon aussi poétique que naturelle d'ailleurs. C'est une plongée dans différentes personnalités féminines, différentes constructions. Comment ça a été pour vous, comment c'était pour toi de te replonger dans toutes ces phases d'adolescence?
Très bien. je pense que c'est ça. J'avais envie d'aller parler des règles parce que j'en avais pas beaucoup... Ben, j'avais pas beaucoup lu ça dans des œuvres qui s'adressaient aux adolescentes ou à n'importe qui de n'importe quel âge, là. Et j'aimais aussi avoir... Tu sais, je me disais justement, c'est une école pour filles et c'est quoi mon point de vue à moi par rapport à ça? Je pense qu'à travers le genre, il y a beaucoup... Il y a une pluralité, justement. Oui, je dis que c'est des filles, mais il y en a certaines qui ne se considèrent pas nécessairement des filles, comme Corinne, par exemple, et qui est un personnage qui n'a pas vraiment de genre.
J'ai une question autour de Corinne plus tard. Okay. C'est cool, on va en parler.
Et je trouvais intéressant, d'autant plus, d'aller explorer c'était quoi les règles pour une personne qui ne se considérait pas féminine, tu sais. Cette espèce de trauma-là, de l'acte. Tu sais, déjà, la première fois que tu as tes règles, c'est un peu traumatisant. Tu sais, tu saignes, tu es comme, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mon corps est en train de changer. Il y a certainement un trauma lié à ça, mais d'autant plus pour une personne qui ne se considère pas féminine. Je pense que ça, j'avais vraiment envie d'aller explorer ça. Ouais.
Mais justement, alors, en parlant de Corinne, moi, c'est un passage qui m'a particulièrement touché. C'est à chaque fois que ce personnage prend la parole, car au tout début, elle souhaite un sexe d'homme pour retrouver sa famille, ses frères, sortir du pensionnat. Son sexe est un peu vu comme une malédiction. Au début, je me suis dit, évidemment, c'est très féministe de se dire, mais en fait, en tant que femme, je ne suis pas considérée comme un homme, je veux sortir de ce pensionnat. Mais plus tard, c'est elle-même qui aura ses règles, qui en parle et qui considère son sexe comme une plaie. Elle dit même « être une femme est une blessure ». Et pour moi, c'est une évocation du genre, voire d'une personne transgenre, en fait. Mmh. Une incursion, sans y aller trop. Et je trouvais ça hyper fin, hyper doux. C'était une volonté ?
Ouais. J'avais, oui, envie d'explorer ça, justement, parce que je voulais pas tomber dans un essentialisme de « Ah, oh, ce sont toutes des femmes. Ah, oh, elles ont toutes des vagins. » Je veux dire, c'est pas quelque chose qui c'est pas un avis que je partage. Puis j'avais vraiment, oui, envie d'aller regarder... Ouais, d'aller explorer ce qui pouvait se passer dans la tête d'une personne comme ça. Tu sais, déjà, ayant été moi-même une enfant très tomboy, j'étais pas... Je voulais pas accéder au code de la féminité dont on me parlait. Et beaucoup d'adultes autour de moi me disaient « Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut que tu t'habilles. C'est pas comme ça que tu dois parler. Oh, arrête d'être aussi violente. Arrête de toujours parler fort, de tout en prendre de la place. » Et je suis comme « Mais non, mais... c'est comme ça que je suis, tu sais. Ouais. Est-ce que c'est parce que je ne suis pas une femme? Puis c'est drôle parce que c'est comme si ce questionnement-là sur le genre, moi personnellement, avait été éclipsé pendant un moment de ma vie parce qu'on avait tellement voulu que je sois une femme que j'ai essayé, tu sais. Mm. Puis là, à un moment donné, c'est revenu pendant la pandémie, justement. Je pense, puis c'est vraiment intéressant, je ne sais plus où j'entendais ça, mais le fait d'avoir été autant coupé du regard et de la performance de genre pendant la pandémie a fait que vraiment beaucoup de personnes se sont mises à se re-questionner sur c'est quoi leur identité, tu sais. Je pense que je me considère encore comme une femme, mais ça va plus loin que ça, tu sais. Je veux dire, mon genre, c'est pas ce qui me définit. Parfois, il y a des journées où je me réveille puis j'ai pas de genre, puis c'est vraiment bien correct comme ça. Puis cette mixité-là, justement, du sentiment par rapport au genre, j'avais vraiment envie de l'explorer, ouais, dans l'écriture.
Ça fait plaisir ce que tu racontes, parce qu'en ce moment, en France, il y a un mouvement de femmes qui se disent féministes, mais qui est un mouvement anti-trans, anti-femmes trans. Elles considèrent les femmes trans comme des hommes dans leur précaré. Comment tu réagis quand... Est-ce que tu es au courant déjà de ce qu'elles disent ? Est-ce qu'au Québec, il y a ça ?
Ouais, ben c'est quoi? C'est ce qu'on appelle des TERFs.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Oui, je pense que ça existe partout. Je pense que ça vient beaucoup d'incompréhension, tu sais. Je veux dire, si t'es mise face à une personne qui se considère comme trans, tu peux pas comme rester là avec de la méchanceté ou de la... C'est quasiment, j'ai l'impression, de la honte intégrée, tu sais. Des personnes qui se permettent pas d'explorer leur genre. Tu sais, je veux dire, je pense que la première fois que tu es confronté à une personne trans, par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont pas... juste pas avoir de connaissances là-dessus et certainement être xénophobe par rapport à ça ou homophobe ou transphobe, tu sais. Je pense que c'est triste, puis il faut s'ouvrir à ça. Clairement, je veux dire, c'est arrivé, moi, la première fois qu'on me parle de personnes trans que je comprenne pas, tu sais, les concepts. Puis je me suis éduquée sur la question.
Mais c'est ça.
Puis aujourd'hui, je veux dire, ce sont des personnes comme les autres. Puis c'est pas le genre qui définit quelqu'un, justement. C'est quelqu'un et quelqu'un. Quelqu'une et quelqu'une. Et quelqu'un point E et quelqu'un point E.
Ça fait plaisir. Ça fait plaisir à entendre. Alors, je voudrais revenir sur les adolescentes de ce livre et surtout ton adolescence. Comment c'était? Si tu veux bien en parler.
Ouais, je pense que mon adolescence, elle s'est passée en deux phases. La première où j'étais justement encore très tomboy, sportive. Mmh. J'étais que dans des équipes de filles, tu sais. Il y avait déjà peut-être cette espèce de coupure-là des garçons parce que ça ne m'intéressait pas, parce que j'étais... presque peut-être asexuelle, pas tout à fait intéressée par la chose. Puis j'avais beaucoup d'amis, puis j'avais un bon réseau, tu sais, fait que j'avais pas besoin de plaire d'une manière, classique, là. Les filles doivent plaire aux garçons, tu sais. Ouais. Puis j'étais vraiment toujours entourée de filles, puis je sais pas, jamais je me posais la question de ma sexualité. C'était juste comme ça, on faisait du sport ensemble, on était amis, on s'aimait bien. Puis je revenais chez moi à la maison où on est comme quatre enfants chez moi. Fait que j'étais toujours entourée de personnes. Fait que j'avais pas à me poser la question. Après, il est venu un moment où je me suis rendu compte que j'étais pas adéquate selon le point de vue de plein de personnes, tu sais. Je veux dire, j'ai été plutôt marginale pendant mon adolescence parce que j'aimais pas m'habiller comme les autres, tu sais. Je portais des vêtements loufoques. Puis je me considérais pas nécessairement comme une personne sexué ou sexualisé, ouais. Ce qui faisait que c'était mes opinions qui étaient importantes. Puis j'avais confiance en moi, mais je ne cadrais pas vraiment dans n'importe quel endroit. Mais je ne m'en rendais pas tout à fait compte. Et puis là, à un moment, c'est ça, tu te rends compte que, je sais pas, tes amis commencent à avoir des copains. Et là, toi, tu te demandes, ah, mais est-ce que je pourrais plaire à des gens? Et là, toute cette remise en question-là qui fait que je me suis mis à essayer d'être ultra féminine à un moment, puis que c'était pas nécessairement... c'était pas moi, tu sais, j'étais pas heureuse là-dedans non plus. Puis finalement, ben, c'est ça, je me suis ouverte.
D'accord. Mais souvent, les enfants, à la marge, font des grands artistes.
C'est gentil.
Moi, à la lecture de ce livre, tu me fais penser à une Björk dans la littérature.
Waouh, ok.
Ben oui, parce que y a une personnalité très forte, on le sent quand on te lit. Il y a ce rapport à la nature et ce côté un peu étrange et ce style littéraire où il y a quand même chaque chapitre est différent. Et je trouve que c'est une prouesse en littérature assez phénoménal.
Je trouve vraiment le fun aussi. J'entends plusieurs auteurs, autrices à Montréal parler du fait que dans le décloisonnement des genres, il y a aussi un décloisonnement du genre littéraire. T'sais, ça fait que, surtout en non-fiction, peut-être au Canada, aux États-Unis, je pense que ça s'en vient aussi en France. Là. Le fait que tu peux faire de l'essai mélangé à du journal, tu peux tout d'un coup tomber dans la poésie. Il y a un auteur queer que j'adore au Canada qui est autochtone, qui s'appelle Billy Ray Belcourt, qui écrit des journaux qui sont essayistiques, des coloniaux, mais qui sont fantastiques. Genre, lire ça, moi, ça m'ouvre toutes les possibilités. Je me dis, ah ben moi aussi, je peux écrire du journal, mais à travers ça, mélanger les genres, tu sais. Puis je pense que plus on va se permettre dans la vie de sortir des codes préétablis, plus il va y avoir une liberté créatrice qui va être fondamentale.
C'est un super programme politique aussi. Et il y a quelque chose de très politique aussi dans ton livre. C'est que c'est un livre non mix. C'est un livre sans hommes. Ils sont parfois évoqués, mais il n'y a aucun personnage d'homme. Moi, je trouve que la non-mixité, c'est un concept extrêmement intéressant qui passe mal souvent auprès des hommes blancs, cisgenres, hétérosexuels. Comment on peut leur expliquer que ces espaces sont essentiels ou comment on peut juste expliquer qu'un espace non-mixité est essentiel?
Ouais. Bah, j'ai déjà eu ces discussions-là avec beaucoup d'amis garçons. Je pense que, tu sais, moi-même étant une femme qui, je pense, parfois prend de la place parce que j'ai une personnalité forte, je me suis rendu compte dans ces espaces-là qu'il y avait des personnes qui avaient de la misère à parler dans des groupes, tu sais, qui étaient plus gênées, plus timides, pour plusieurs raisons. Ce qui fait que moi-même, je me suis mis à me taire pour écouter les autres. Et je sais pas qu'est-ce qui fait ça, mais je veux dire, peut-être que j'avais un tempérament plus sanguin ou peut-être que je me suis dit assez jeune, ah, pour qu'on m'écoute, il faut que ma voix soit plus forte et plus basse. Il faut que je sois plus masculine, finalement. Puis en me rendant compte, moi-même, à travers mon comportement, que je veux laisser les autres parler, ben, ça devient plus facile, on dirait, d'expliquer ça après à des hommes. Je veux dire, même quand il y a des événements, je ne sais pas, des colloques ou quoi que ce soit dans lequel il y a des périodes de questions et qu'on oblige le fait qu'il y ait une mixité de la parole, tu sais, que c'est pas que les garçons qui parlent. En fait, c'est souvent les garçons qui parlent le plus. Et là, quand on dit non, on veut qu'il y ait mixité, donc s'il y a que des garçons, on va toujours vouloir qu'il y ait une fille aussi qui parle entre les deux. On se rend compte, en fait, clairement qu'il y a une inégalité, pardon. J'écoutais le débat des chefs au Québec là, aux élections. Puis tu sais, il y a à la fois des femmes et des hommes qui parlent, mais quand tu regardes le nombre de temps, les garçons pètent le temps, tandis que les filles arrêtent toujours à la limite. T'sais. Fait que, je veux dire, à force d'exemplifier la chose, puis à force d'en parler avec bienveillance, justement, je pense qu'il y a beaucoup de garçons qui devraient se mettre à écouter plus. Puis je pense que à travers l'écoute, justement, déjà, ils vont se rendre compte qu'on n'a pas toujours besoin de les entendre, mais surtout, ils vont écouter ce que les autres ont à dire, chose qu'ils ne font pas souvent.
Mais il y a des émissions de débat en France que j'écoute souvent, que je regarde, et il y a des plateaux maintenant, hommes et femmes, enfin, une égalité physique. En revanche, les femmes se font systématiquement couper la parole. Les hommes, jamais. On les écoute jusqu'au bout, les femmes, il faut les... Comme s'il fallait toujours un peu les silencier. C'est rageant.
vraiment. Je ne sais plus où je lisais ça. Je pense que c'est peut-être dans Polynarmant. Moi, les hommes, je les déteste. Il y a un bout où il dit, en fait, on a l'impression que dans les couples en général, tu sais, par exemple au Québec, il y a cette espèce de figure de la mégère, là, la femme qui porte les pantalons. Là. C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est celle qui dicte ce qui doit être fait dans la maison, nanana. Et elle dit, on pourrait croire à cause de cette espèce de mythe de la mégère-là que les femmes, c'est celles qui parlent le plus dans les couples. Mais en fait, c'est pas vrai parce qu'il y a tellement de mécanismes qui existent pour couper la parole, dont en fait, ne même pas répondre à ces questions.
Ah là là.
Ayant été moi-même parfois, en fait, dans des couples hétérosexuels, je me reconnais à 100% là-dedans. Je veux dire, tu parles, tu poses une question, la personne fait comme si elle t'entendrait pas. T'es comme, mais voyons donc.
Ouais, ça rajoute de la rage, et après, une fois que la personne s'énerve, mais pourquoi tu t'énerves ?
Oui, c'est ça.
Ah, je vois très bien. Alors, moi j'ai vu un mystère, mais c'est juste une anecdotique dans le livre et même sur ton compte Instagram. Donc, je me permets de te poser la question. Il y a une expression qui revient souvent au travers des personnages, c'est hihi, tout le temps, et dans ta description Instagram aussi. Et je me suis demandé ce qu'il y avait dedans, en fait.
Dans le hihi, c'est vraiment drôle parce que dans le premier roman que j'ai écrit, qui s'appelle Feu avec un E à la fin, il y avait un personnage qui faisait tout le temps et au niveau de ce rire-là, je pense qu'il y a quelque chose qui, moi, tout simplement me fait rire. D'accord, moi-même. Ouais. C'est l'écriture du rire. Mais c'est aussi souvent les personnages qui sont vus comme étant les plus fous ou les plus étranges qui se permettent de rire. Et là-dedans, ben, clairement, pour la petite Laure dans École, et j'avais envie qu'on voit cette espèce de rire de sorcière, tu sais. Il y avait ça là-dedans, mais aussi dans le fait de vous présenter la joie comme étant quelque chose d'étrange. Je pense que...
Complètement.
Ouais. Puis moi, je suis aussi une fervente des ha 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 hi hi hi. Je n'accepte pas le lol.
Quand t'écris, est-ce que tu vis ce que les personnages racontent? Est-ce que tu les joues comme une actrice aussi?
Ouais, vraiment. J'adore me relire à voix haute. Puis je me rendais compte, j'ai relu l'œuvre juste avant d'arriver à Paris parce que ça faisait un moment que je l'avais lue. Puis même, je la lisais à voix haute, puis je me rendais compte que j'avais différentes voix. Pour drôle, les personnages ça. Les plus... par exemple, Ariandre ou Corinne, qui sont plus peut-être agressives, là, j'y allais avec une voix. Puis là, je tombais dans Annette, qui est la petite naïve. Là, tout d'un coup, j'avais une petite voix. J'aime beaucoup y jouer, les voix des personnages.
Et des lectures seront prévues ou pas du tout? Ce serait drôle.
Oui, en fait, on s'en va en librairie... à la fois à Paris, Bruxelles et Lyon.
D'accord.
Et il va y avoir des lectures
super.
Dans les librairies.
Donc tu vas faire les personnages.
Peut-être.
J'aimerais bien parler un peu de toi. Dans ta bio, il est écrit que tu es écoféministe. On le ressent à la lecture de ce livre. Mais pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu peux en donner une définition ?
Je dirais que c'est l'exploration à la fois sur le corps féminin et sur la terre et l'environnement, comment ces deux territoires-là sont exploités par l'homme en général, grossièrement.
Et un peu plus dans le détail, ce serait quoi du coup?
Dans le détail...
J'ai pas retrouvé... En fait, j'avais lu une interview de toi où tu avais une vision... assez marrante des coachs de vie, et je me souviens plus de la référence, mais tu vois ce que je veux dire.
J'avais lu ça, c'était chez Patty O'Green qui a écrit un manifeste céleste, je crois que c'est en 2021 à Montréal, chez Remue Ménage, et là-dedans elle parlait du fait que en tant que personne, en tant qu'humaine, on se fait tout le temps dire « Ah oui, il faut croître de manière personnelle. » Oui, ça parle de croissance personnelle, entre autres. Et elle cite une autrice autochtone, Thérèse Mayotte, ou en tout cas, je n'ai pas le nom exact, là, qui, elle, dit que, en fait, si on se fie à la forêt, les arbres... le but d'un arbre, ce n'est pas de devenir grand et de prendre toute la place. En fait, non, le but d'un arbre, c'est de devenir une forêt. Ce qui fait que, en tant qu'humain, nous, on doit arrêter de vouloir croître de manière personnelle, même si clairement la confiance en soi, c'est important, mais il faut croître en tant que société. T'sais. Et à chaque fois que j'entends des discours racistes ou homophobes, je suis comme, mais ça te dérange quoi la vie de la personne à côté de toi, tu sais? Pourquoi est-ce que tu veux pas que tout le monde soit heureux ou heureuse? Tu sais, comme si tout le monde en se permettait une liberté individuelle, ben collectivement,
qu'est-ce qu'on en fait? On
serait bien, je pense. Mmh. On serait beaucoup mieux, en fait. Mmh. Et qu'est-ce qui fait qu'on continue de vouloir catégoriser toutes les choses comme ça? Ben, c'est parce que ça plaît à un certain pouvoir. Il y a des gens qui aiment exploiter les autres. Mmh. Par exemple, quand on parlait des hommes qui aiment avoir plus de temps de parole, ben, ça fait leur affaire parce qu'ils peuvent continuer de décider, en fait. Il y a même des hommes qui sont en train de vouloir décider de c'est quoi un corps de femme, qui veulent contrôler le corps des femmes, qui veulent pas qu'elles avortent, qui veulent pas qu'elles aient la contraception non plus. Je veux dire, ben là... Laissez-nous vivre!
Totalement. Alors, il y a des mouvements aux États-Unis anti-avortement. En France, il y a eu une manifestation ce week-end. C'était lunaire. Et ça se passe comment au Québec sur cette question?
Je dirais que ça se passe mieux.
Ouais.
Mais en même temps, il y a des partis conservateurs au Québec aussi qui n'osent peut-être pas encore parler du sujet. Mais c'est sûr qu'il y en a, je veux dire, il y a aussi des fervents religieux au Québec. Et puis, tu sais, vraiment pas très loin de chez nous, dans les Maritimes, il y a des provinces dans lesquelles il y a une seule clinique d'avortement.
Oui, d'accord. Donc, ça peut être très compliqué d'avorter.
Exactement, oui. Mais je dirais qu'on est quand même chanceuse au Canada que ça soit plus possible qu'aux États-Unis, oui. Mm-hmm.
Alors, je voudrais avoir ton point de vue sur un autre sujet, si je peux me permettre. Personnellement, moi, je ne lis plus de livres d'hommes blancs hétérosexuels. C'est toujours des débats quand j'en parle avec des proches. Mon temps, je le consacre à des autrices, à des auteurs LGBTQIA+, ou féministes, ou racisés. Je conseille d'ailleurs River Solomon, Les Abysses. C'était juste génial, je l'ai lu cet été. Je voulais savoir, toi, comment tu fais tes choix de lecture?
Pas mal de la même façon. Tu sais, moi, j'ai une maîtrise en littérature. Pendant mon baccalauréat, je me suis rendu compte à un moment donné qu'on avait tellement pas beaucoup lu de femmes, tu sais. J'ai fait mon bac à Québec, déjà qui est un peu... L'université à Québec est un peu plus conservatrice. En arrivant à Montréal, j'avais tout d'un coup beaucoup de professeurs femmes, tu sais. Et là, on nous faisait lire des œuvres fantastiques. J'avais, entre autres, la féministe Martine Delvaux comme professeure, qui me fait lire énormément de trucs qui m'ont chamboulée, tu sais. Déjà, des autrices qui n'étaient pas des hommes, mais qui étaient aussi racisées, qui étaient LGBT, justement. Ça m'a vraiment ouvert les yeux. Puis je me suis rendu compte que, tu sais, je veux dire, tout le monde devrait faire ça dans sa bibliothèque. Regardez c'est quoi les livres que tu as chez toi. Tout le monde a les classiques français, déjà, si tu es francophone. Fait que déjà, je me rendais compte que j'avais pas beaucoup de littérature québécoise. Après ça, j'avais pas beaucoup de littérature africaine, sud-américaine. Mmh. Et là, j'étais comme, OK, bon, mais si je vais voir dans ce que j'ai de littérature américaine, ben, c'est que des hommes aussi. Fait que je me suis mis à vouloir, tu sais, on dit à la fois, oui, décoloniser sa bibliothèque, mais aussi démasculiniser sa bibliothèque. Mmh. Clairement, il y a quelque chose à faire là, tu sais. Puis je pense que c'est... Parfois, c'est sans le savoir, tu sais, parce que on est allé à l'université, c'est pas nous qui avons choisi nécessairement ce qu'on lisait. Fait qu'il y a quelque chose qui doit être fait aussi dans l'académie. T'sais. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe là, évidemment. Mais nous-mêmes, personnellement, ben, on peut se dire, ah tiens, sur les 10 livres que j'ai achetés cette année, il y a combien de femmes? Il y a combien de personnes racisées? Il y a combien de personnes qui ne sont pas hétérosexuelles?
Moi, c'est un débat que j'ai eu au moment où Alice Coffin a sorti Le génie lesbien. Et justement, elle a toute une tirade en disant aujourd'hui, je ne lis plus le livre d'hommes. Et ça a été un débat autour de moi où les gens ne comprenaient pas et tout. Et la question, j'étais là, bon, je peux écouter vos peurs, mais combien d'autrices avez-vous lu?
Exactement.
Et là, d'un coup, les gens capotent. C'est comme en histoire de l'art, dire cite-moi cinq peintres. Alors, on y va direct. Cite-moi cinq femmes peintres. Il y a toujours un silence.
Effectivement, oui, je suis assez d'accord. Clairement, avec mes amis, je pense qu'on est rendu à un moment où ils ont compris que si tu n'es pas d'accord avec moi, on va juste passer à un autre sujet. Mais je pense que ça a aidé aussi de parler de ça avec des personnes qui s'en étaient juste vraiment pas rendues compte. T'sais.
Exactement.
Je crois que c'est juste c'est ça. Puis depuis que moi, j'en ai parlé, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se sont mis dans mon entourage à se rendre compte que c'est vrai. Quoi, il faut aussi qu'ils se mettent à lire des femmes.
Eh oui. Ça ne changera pas leur masculinité?
Non.
Au contraire, ça peut les faire évoluer, Solène.
Ça peut même l'améliorer.
On y croit. On arrive sur la fin. Je voudrais savoir si tu veux partager, justement, vu qu'on parle de littérature, si tu as envie de partager avec nous quelques coups de cœur que tu as eus récemment.
J'ai eu, justement, pour revenir sur le sujet de l'avortement, un club de lecture à la bibliothèque à Montréal récemment où on a lu Lenny Zuma, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Les Heures Rouges, un récit choral de plusieurs femmes aux États-Unis. Et c'est fou parce que ça a été écrit en 2018 et elle avait imaginé que l'accord Roe versus Wade allait être aboli.
Ah, la vache.
Donc, elle avait. Ben, je veux dire, on allait clairement vers ça de toute façon. Mais dans le fond, c'est ça. C'est à la fois n'importe quelle femme qui est célibataire ne peut plus adopter. Après, la procréation assistée devient vraiment compliquée et beaucoup trop chère, comme c'est déjà le cas de toute façon. Et les femmes ne peuvent plus avorter. Et là, c'est le récit à la fois d'une étudiante de 17 ans qui tombe enceinte, d'une prof, de sa prof qui essaie d'avoir un bébé avec PMA, puis elle n'a plus le droit parce qu'il faudrait qu'elle ait un mari pour avoir un bébé. C'est des parents qui veulent adopter. Et d'une guérisseuse qui, tout d'un coup, devient un peu avorteuse aussi, de manière clandestine. Et ça, j'avais trouvé ça très intéressant.
Et justement, le fait de parler de la guérisseuse, ça me fait penser que j'ai l'impression que dans ce livre, il y a de la magie. Il y a un peu dans l'écoféminisme, on renvoie aux sorcières et tout. Qu'est-ce que ça t'évoque, en fait, cette image de la sorcière?
Ça m'évoque vraiment, une figure... féministe étendard, tu sais, on l'a vu déjà avec Mona Chollet qui a publié un super topo sur les sorcières. Puis ça m'a fait, j'avais lu aussi Sylvia Federici, Caliban et la sorcière, qui m'avait vraiment ouvert les yeux sur le fait que à chaque moment où on veut aller s'occuper d'un territoire, c'est quoi, c'est la Banque mondiale aujourd'hui encore qui fait ça, quand elle va en Afrique par exemple. Chercher un territoire, va l'enlever à des agricultrices le plus souvent. Et tout de suite après, qu'est-ce qui va se passer? Toutes ces femmes-là qui perdent leur territoire se font accuser de sorcellerie. Puis, ça se passe, c'est encore actuel.
Je savais pas.
Ça se passe partout, tu sais. Puis, relier ça à l'histoire de la chasse aux sorcières, je pense que ça fait comprendre, en fait, pourquoi, à un moment donné, on s'est mis à être aussi misogyne. Pourquoi on a voulu tuer des personnes qui ne pensaient pas comme le dominant capitaliste. J'aime la magie. Je pense qu'à travers cette magie-là, on a l'impression que les femmes peuvent avoir du pouvoir, en fait.
Ouais, on essaie de leur nier le pouvoir. Et alors, en dernier mot, c'est quoi tes prochains projets? Vers quoi? Est-ce que c'est de la littérature, de l'illustration? Qu'est-ce que c'est?
On est avec un collègue réalisateur en train d'adapter mon premier roman Feu en film.
Super!
Je suis en co-scénarisation depuis un moment. Mais je travaille aussi sur un recueil de poésie qui se passe dans la forêt complètement. J'essaie de faire parler des arbres, des roches et la rivière.
On en revient à Björk, en fait.
Oui, c'est ça. Il va y avoir beaucoup de sons et peu de mots.
Ah, super.
Puis j'écris aussi un roman qui s'en vient lentement, mais sûrement.
D'accord, j'espère que tu reviendras au micro du Visible. Tu seras bienvenue.
Merci, ça me fera plaisir.
Je vous conseille à toutes et à tous la lecture de ce livre, École pour filles, un livre étrange qui restera longtemps imprégné en vous, avec certainement la volonté d'y retourner. À bientôt.